Au 01 45 24 7000, Marie-France nous appelle de Bordeaux. Bonjour Marie-France.
Bonjour, je voudrais tout d'abord dire à votre invité à quel point je suis sensible à son discours roboratif, hein, à ses propos très positifs. Ça fait du bien dans cette rentrée.
Vous n'êtes pas seule à nous appeler pour nous le dire ce matin.
Bon, alors ma question est la suivante. Je voudrais lui demander s'il pense justement que la littérature, sortie enfin de l'autofiction, de la littérature nombriliste, enfin, etc., etc., permet de réinvestir autrement le champ politique. Et si je pose cette question, c'est parce que, puisqu'on parle des ouvrages de rentrée, je viens de lire le très beau livre d'Éric Vuillard qui s'intitule 14 juillet, qui n'est pas un roman mais un récit, où Éric Vuillard met en scène, plutôt en récit, le peuple. Mais non, le peuple qui n'est pas un mot, que balance de façon parfois, complètement irraisonnée nos hommes politiques, mais le peuple charnel, en quelque sorte. Et ce 14 juillet, justement, mis en récit par Éric Vuillard, moi, m'amène, justement, à réfléchir sur cette force extraordinaire que constitue, que peut constituer le peuple dans des périodes déclinistes ou soi-disant telles. Voilà ma question.
Merci, Marie-France. Alain Mabankou.
Oui, je pense que madame a raison. La littérature aussi a ce pouvoir de bousculer les choses. On pense toujours que l'écrivain devait prendre la posture du moine retiré pour regarder le monde passer. Mais l'écrivain, c'est quelqu'un aussi qui s'investit. On a vu comment je lutte aussi par rapport à la situation qui se trouve au Congo-Brazzaville.
J'allais vous en parler.
Voilà, 32 ans au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, qui s'arroge tous les droits, qui a tous les pouvoirs, des ministres arrogants, une France qui est hypocrite de ce pouvoir, je l'ai dit aujourd'hui. J'avais même fait la menace selon laquelle, si la France continue à recevoir ce pouvoir de Brazzaville ici, légitimé Denis Sassou Nguesso, si c'est la gauche qui reçoit, moi qui suis un homme de gauche de nature, eh ben je ferai tout pour donner ma voix à la droite. Je vote ici et je convaincrai beaucoup de le faire. Mais j'attends en France des candidats à la prochaine élection qui vont avoir un discours clair vis-à-vis de ces régimes autocratiques qui sont en train d'oppresser les hommes.
Je rappelle
et
que Sassou Nguesso s'est fait réélire en mars dernier, moyennant des arrangements avec la constitution du pays. Vous avez écrit, vous avez envoyé une lettre à François Hollande.
J'ai été reçu d'ailleurs.
Vous avez été reçu.
J'ai été reçu par François Hollande, par Jean-Marc Ayrault. Évidemment, les intérêts français sont à côté. Moi, je pense que il faut, à un moment donné, qu'on se dise, la France qui se dit démocratique pour elle-même, pourquoi elle ne ferait pas appliquer cette démocratie ailleurs? C'est-à-dire ne pas donner la main aux dictatures qui sévissent en Afrique.
Qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'il y a intérêts économiques,
François Hollande m'avait clairement dit que le gouvernement ou le président de la République n'avait pas reçu le président Sassou Nguesso, avait reconnu ses erreurs qui sont entachées, mais cela n'empêche pas la France de travailler avec cette dictature qui est là. Il y a même un conseiller qui m'avait dit, oui, mais si on ne travaille pas avec les présidents du monde, les démocrates, on n'en aura que 7. Soit. S'il faut travailler avec cette démocrate, on le fait. Est-ce que la France, c'est la France qui laisse les Kadhafi porter des tentes ici? C'est la France qui laisse des situations peut-être de démocratie en danger? Moi, je pense que le rôle de l'écrivain est là aussi et on le sent dans la littérature, même dans cette rentrée.
Ce qui est important de dire, c'est que Alain Mabankou, ce sont des Congolais eux-mêmes, des jeunes citoyens qui vous demandent d'intervenir, saisi sur cette situation politique.
C'est les jeunes qui me demandent d'intervenir. Bien évidemment, je ne suis pas un homme politique, mais il ne faut pas non plus que ces gens qui font de la mauvaise politique m'incitent à le devenir. Je pense que quand j'entends des jeunes qui m'écrivent tous les jours, qui me disent la douleur qu'ils ont, le manque d'expression, des élections qui se passent pendant 4 jours sans électricité, sans internet pour pouvoir tricher comme des apprentis sorciers qui n'auraient pas bien maîtrisé les règles de la sorcellerie, ça, je ne comprends pas que nous soyons dans ce monde. Et puis, vous savez, ce gouvernement m'a lancé, en quelque sorte, une interdiction de séjour au Congo-Brazzaville. Oui. Aujourd'hui, si je vais au Congo-Brazzaville, je vais être arrêté parce que je parle de la situation en empruntant une chanson qui n'est pas une chanson du gouvernement autocratique. Et moi, je m'en fous. Je pense que le Congo qui est là n'est pas le Congo que je rêve. Comme à l'époque, ceux qui allaient en exil disaient toujours « Rome n'est plus dans Rome ». Et moi, je dis « Le Congo n'est plus dans le Congo ». Il est partout où les gens se lèvent pour bouter dehors ces dictateurs qui pensent que le 21e siècle est l'âge préhistorique.
Et vous êtes censuré au Congo. On ne lit pas vos livres.
Bon, mais aujourd'hui, on peut rien censurer.
Non, on peut les lire, mais ils ne sont pas distribués.
Le président et les autres, ils ont leur écrivain qui raconte ce qu'ils veulent. Hein, mais moi, je ne mange pas de
peuple. Mais on peut lire Marc Lévy, Guillaume
Musso. Pas de problème, mais on peut lire...
C'est pour dire que la francophonie se diffuse, mais d'une autre façon.
Marc Lévy, c'est un ami, je n'aime pas le critiquer. Voilà, moi, je n'aime pas qu'on critique la littérature. Ça apporte des lecteurs. Moi, j'ai vu dans le métro... mon ami qui était écrivain, qui critiquait Marc Lévy, et quand l'écrivain, la lectrice a levé la tête, m'a vu, elle a dit « Ah, vous êtes monsieur Mabankou ?» Oui, j'ai lu votre mémoire de Porc-Épic. C'est là que j'ai compris que les lecteurs de Marc Lévy peuvent aussi lire du L'Ecclésio, du Joncourt, du Delamo, ou même du Régis Joffré. Donc, ce sont des lecteurs.
L'important, c'est
lire. L'important, c'est qu'on lise.
Très bien. Colette nous appelle d'Eure-et-Loir. Bonjour, Colette.
Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, ma question s'adresse donc à monsieur Mabankou. Je suis très heureuse de pouvoir lui parler.
Merci.
C'est de savoir quelle serait pour vous la francophonie idéale, avec évidemment des moyens pratiques, concrets. Je vous remercie monsieur.
Merci beaucoup madame. La francophonie idéale serait une francophonie culturel, l'échange de la culture. La grande erreur de la colonisation a été de considérer les cultures autochtones comme étant rétrogrades, comme étant d'une autre époque. On n'a donc pas pris le temps d'apprendre ce qu'étaient ces populations qu'on avait colonisées. Mais maintenant, on sent cette carence même dans le monde de l'Occident, où quand on ressent l'étiolement de la culture, c'est parce qu'il manque la part du monde qu'on n'a pas pris le temps de mettre ensemble. Et cette francophonie culturelle doit l'emporter sur la francophonie institutionnelle, parce que vous savez que quand les gens entendent francophonie, on a l'impression que c'est la continuation de la politique étrangère française par des moyens détournés, alors que la France n'est qu'un membre de la francophonie. Et vous savez, moi, on m'appelle écrivain francophone, on n'appellera jamais Houellebecq écrivain francophone, on n'appellera jamais Joncourt écrivain francophone, ou Karine Thuil, ou Gaël Faye, à la rigueur. Écrivain francophone, dans l'esprit de beaucoup, c'est déjà l'exclusion. Et c'est ça que je suis en train de chercher de critiquer, parce que la francophonie est plus grande que la France. La francophonie est une histoire continentale et la France est une histoire d'une nation. C'est à la France d'entrer dans la francophonie et non à la francophonie d'entrer dans la France.
Pierrick Parmel vous demande, et pour compléter cette question, pourquoi l'organisation de la francophonie reste inconnue ou inaudible ? Est-ce un machin bien utile ?
Mais parce que la francophonie elle-même aussi n'a jamais élevé la voix contre les dictatures. Les représentants des dictatures.
Vous venez de dire que ça doit être culturel et pas politique.
Oui, mais la culture aussi passe par la démocratie du savoir. Je veux dire que qu'est-ce que la culture si elle est verrouillée par les lois et les comportements les plus rétrogrades comme ce qu'on voit au Congo-Brazzaville ? Elle n'existe pas. Vous trouvez normal, par exemple, dans un pays, d'avoir un ministre de la culture qui n'a jamais lu un livre et dont les vidéos pornographiques circulent à l'intérieur d'Internet. C'est pas possible d'avoir des situations pareilles.
Ça, c'est où? C'est donc, au Congo, ça?
Je ne citerai pas le nom, mais vous aurez compris avec l'intonation de ma voix que je ne lâcherai pas d'une semelle cette histoire. Donc, je pense que la politique telle qu'elle est faite doit être une politique culturelle.
Des tweets avec le mot-clé interactif avec Ali Maniar, les réseaux sociaux.
On a pas mal de messages qui saluent votre optimisme, Alain Mabankou, en ce lundi matin ensoleillé. Ça donne un sacré coup de booster, nous dit Alban. Et puis, il y a cette question, une question de Kylian qui demande comment vous expliquez l'engouement des étudiants américains pour la langue française.
Moi, je pense que l'engouement des étudiants pour la langue française, et c'est là que ça devient intéressant, est aussi lié au fait qu'en allant dans la langue française, ces étudiants américains entrent aussi dans un espace plus vaste que la France. Étudier la littérature africaine en français, c'est aussi entrer dans l'histoire de l'Afrique que les Américains ne connaissent pas. Donc, ils se retrouvent à l'intérieur. pour un Africain, tout est pour un Noir américain, tout écrivain qui écrit en français est un Français. Et ils comprennent maintenant derrière les enjeux de la langue française. Et puis la culture française demeure toujours une vitrine, un élément de distinction dans la société américaine. Quand vous parlez en français ou vous parlez le français, vous vous distinguez déjà. C'était ainsi aussi au moment de la colonisation. C'est celui qui savait utiliser le mieux le subjonctif imparfait qu'on écoutait, alors que celui qui massacrait la langue française, ben, on le renvoyait au calendre grec.
Question de François de Beaugency qui vous parle de Black Bazar et qui vous demande aurez-vous l'occasion de rééditer un nouvel album Round 2, demande-t-il.
Oui, j'ai fait de la production musicale, hein, deux albums, Black Bazar 1, Black Bazar 2, en réunissant des artistes africains, des panafricains même. Hein, et je pense que c'est mon souci aussi d'aider les artistes. Mais je pense que dès que je serai un peu plus calme, je ferai aussi un album très ouvert avec d'autres personnalités.
D'autres choses Camille Manière, alors un slogan
Bah oui, tout simplement, Rose nous dit, et c'est pas la seule, Alain Mabankou, président de la République, évite. Alors, qu'est-ce qu'on répond à tous ceux qui vous plébiscitent
quelle République, française ou congolaise?
Je crois que c'est pour la France que nos twittos pensent qu'on aurait bien besoin de vous.
Non, je pense que la France n'est pas prête parce que j'ai trop une grande gueule. C'est pas ma couleur, mais c'est ma gueule qui ne plairait pas.
Ah bon?
Voilà, je pense. Oui, parce que je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas là pour diriger un pays. C'est pour cela que je dois calmer les dictateurs qui pensent que tout ce que je fais là, c'est pour parachuter. Non, je n'ai pas le temps d'être un ministre dans un gouvernement fermé. Je pense que j'ai d'autres choses à faire. J'ai beaucoup d'institutions culturelles à valoriser et ça m'a fait plaisir, par exemple, d'avoir enseigné les littératures africaines au Collège de France, ce qui est une première depuis 1530, l'année de la création du Collège par François Ier. Je suis content de continuer à travailler avec le Collège de France et peut-être de réfléchir à un certain Collège d'Afrique.
Ah.
C'est quelque chose que je lance avec des grands intellectuels comme les Achille Mbembe, les Souleymane Bachir Ndiaye. Il faut qu'on réfléchisse. On a d'ailleurs un colloque là-dessus en octobre au Sénégal. Et là, on fera de vrais discours de Dakar.
Un collège d'Afrique qui s'adresserait à qui?
Au monde.
Au monde.
L'Afrique, c'est le monde. Voilà, donc je pense que ça, il faut qu'on le sache.
Camille?
Et oui, sur Twitter également, sur le compte de Pierre Aski, on pourra voir un lien qui permet de comprendre ce que vous nous disiez sur ce ministre de la Culture dont les vidéos porno circulent sur le web, j'en dis pas plus, donc c'est sur le compte Twitter de Pierre Aski.
Ah oui, on peut le voir.
Très réactif, Pierre Aski.
Merci Pierre Aski.
Le monde et mon langage, dans quelques jours, chez Grasset, que vous présentez comme une autobiographie capricieuse, oui. Alain Mabankou, parce que vous pensez que ces rencontres, cette communauté de langage, d'esprit dont on parlait, ces écrivains, ces inconnus que vous rencontrez, tout cela vous définit aussi, vous définit vous-même et votre raison d'être.
Je pense que ça me définit. Moi, je suis agacé quand des écrivains viennent à la télé ou à la radio. Qu'est-ce qui vous a influencé? Oui, j'ai lu les 4 pages de la recherche au temps perdu. Non, moi, j'ai été influencé par des inconnus. Dans ce livre, je croise un clochard dans la Nouvelle-Orléans qui m'explique l'Amérique, qui m'explique Katrina. Mes discussions avec ces écrivains, en réalité, si j'ai dit autobiographie capricieuse, parce que c'est un livre qui n'a pas de genre. On a l'impression de lire des récits dont les personnages sont vivants. Mmh. Entendre parler le Clésio en dehors du fait qu'on voit le Nobel comme ça, c'est autre chose. Mais moi, j'ai vu le Clésio que je ne connaissais pas m'appeler, me dire d'aller nous promener dans le jardin du Luxembourg. Moi, je pensais qu'on allait avoir de grandes discussions. Il ne parlait pas. Quand un oiseau passait, il me disait « l'oiseau passe ». Et j'opinais « oui, l'oiseau passe ». Quand il commençait un peu à tomber, « ah, il va tomber ». Oui, il tomberait. C'est ça que j'aime dans la littérature et que j'ai voulu incarner dans ce livre.
Mais dans votre post-scriptum, vous déterminez les 3 livres que vous emporteriez sur une île déserte. Il n'y a qu'un livre francophone, celui d'Albert Cohen. Les 2 autres, c'est Steinbeck, Des souris et des hommes et Garcia Marquez.
Et ça prouve l'ouverture de la littérature. Il ne faut pas toujours attendre, par exemple, d'un Africain qu'il cite toujours un auteur africain. Moi, je pense que les auteurs africains qui m'ont marqué tout le monde le sait, Yambo Wologem avec le devoir de violence, Amadou Kourouma avec le soleil des indépendances, mais il y a aussi des latino-américains, l'amour au temps du Corleira de Gabriel Garcia Marquez, Conte de la folie et de la mort d'Horacio Quiroga, Dino Buzzati avec ses déserts de Tartare. Donc il y a plusieurs écrivains, mais quand je fais la liste des trois. Pourquoi Albert Cohen, le livre de ma mère? Parce que je suis quelqu'un qui est venu à la littérature par cet amour que j'avais de ma mère qui ne savait pas lire et écrire, qui indirectement m'avait demandé de le sauver pour dire qu'une analphabète pouvait aussi produire un écrivain. Et voici, je suis là devant vous. Ma mère nous contemple depuis son cimetière.
Alain Mabankou, Le Monde et mon langage, dans quelques jours chez Grasset. Merci, restez avec nous dans 40 secondes. Sophia Aram va revenir.